Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à demain, le kilo de pavé de saumon atlantique est à seulement 17,99€.
À ce prix-là, on va remplir les assiettes, le frigo et même le congélo.
Vous aimez le saumon, est-ce que je vois? Vous faites les stocks?
Oh, comme si vous n'alliez pas venir goûter un de mes plats.
Si vous insistez...
Eh ben j'insiste.
Auchan, avec plaisir. 17,99€, le kilo de pavé de saumon atlantique, élevé en Écosse ou en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Kaouter Ben Mohamed, Bruno Pomar et Kevin Bossuet. Tout à l'heure, il y aura un match entre les GG, c'est le GG 7 et match. On va revenir sur la situation à Marseille. 33 morts à Marseille en 2022 dans des règlements de compte. Plus de 60 homicides et tentatives d'homicide seulement pour l'année 2022. Est-ce que Marseille est devenue une zone de non-droit? Alors on va en discuter. Oui, dit Kevin. Non, dit Kaouter, la Marseillaise, et Bruno Pomar, le policier. Vous êtes ensemble. Ça sera le débat tout à l'heure à 11h20. Marseille, une zone de non-droit. Débat avec vous, bien sûr, au 32-16. N'hésitez pas à appeler dès maintenant. Mais pour commencer cette nouvelle heure passée ensemble, on va terminer aujourd'hui notre opération. Les grandes gueules remercient ceux qui ne s'arrêtent jamais.
RMC, les grandes gueules.
Les Français sont majoritairement en vacances pour célébrer les fêtes de fin d'année, sauf certains qui sont sur le pont. Je parlais notamment des chauffeurs routiers, des pompiers, des boulangers, des aides-soignants, mais aussi des policiers. Donc toute la semaine, on leur a rendu hommage. Hier, c'était Nathalie, aide-soignante, qui était avec nous du Puy-de-Dôme. Elle était venue à Paris nous rendre visite. Et là, nous accueillons un policier. Alors lui, il est parisien, c'est plus simple. Il s'appelle Johan. Bonjour Johan.
Bonjour.
Policier depuis 18 ans maintenant.
Oui, 18 ans sur Paris.
Donc, si je calcule bien, tu as 40 ans, tu as commencé jeune, ouais.
Oui, plutôt, 24, mais je n'ai pas démarré parmi les plus jeunes. Il y a beaucoup de nos collègues qui rentrent avant 20 ans dans la police nationale, beaucoup qui ont même 18 ans dès leur majorité, qui passent le concours.
Alors, les policiers sont mobilisés cette semaine, notamment pour le réveillon qui arrive. C'est toujours un moment, alors c'est censé être un moment festif, mais c'est aussi un moment de tous les dangers, parce qu'il y a des problèmes de délinquance, il y a aussi l'histoire des voitures brûlées, c'est devenu un sport national.
Ben, vous m'enlevez les mots de la bouche. C'est malheureusement, tristement, un sport national pour le 31. C'est un moment qui est festif pour tout le monde, mais pour nos collègues, on aborde toujours le 31 avec beaucoup de prudence dans les interventions. Et tristement, en Île-de-France, on a des phénomènes de guet-apens, de voitures brûlées, de poubelles, des concours entre les quartiers à celui qui va commettre le plus de dégâts. Et toutes ces interventions-là sont des interventions qui sont toujours très compliquées pour mes collègues à gérer.
Ouais. Donc là, samedi, ça risque d'être chaud, quoi, en fait. Surtout que ça tombe le week-end, qu'il fait assez doux, donc il y aura quand même beaucoup de monde dans les rues, il va faire 15 degrés.
Oui, au-delà des festivités qu'on a sur Paris, parce qu'on a encore un feu d'artifice sur les Champs-Élysées, donc il va falloir sécuriser les festivités de Paris, mais aussi s'atteler à sécuriser tous les quartiers avec tous ces phénomènes. Et ce qui est très compliqué, vous parlez de professions qui ne s'arrêtent jamais. Nous, c'est le cas. Dans la police, on le sait, quand on rentre, c'est 7 sur 7, 24 sur 24. Même quand vous n'êtes pas en service, vous avez l'obligation d'intervenir. Et donc moi, mes collègues, ils sont engagés au quotidien, tout le temps. Mais effectivement, on a des périodes où on est sursollicité. Là, la Coupe du Monde, je pense que vous l'avez vu à Paris, ça a été relativement compliqué. On a eu affaire, malheureusement, au drame qu'on a eu dans le 10e arrondissement avec les manifestations qui ont suivi.
Devant le centre culturel kurde, oui.
Ouais, ou encore les forces de l'ordre ont été pris pour cible et pris à partie.
Vous l'avez compris, ça, parce que c'était ce samedi-là, c'était censé être une manifestation hommage à des victimes, et ça se transforme en chasse aux flics, dans les rues de Paris.
Oui, mais le jour même, d'ailleurs, quand le ministre de l'Intérieur se déplace, j'étais chez vos confrères de BFM ce jour-là, et on se retrouve, nous, policiers, à être la cible chaque fois que... C'est un exutoire.
Oui, c'est ça.
Mais c'est.
Mais qui vous cible en fait précisément?
Malheureusement, c'est regardez les dernières crises qu'on a connues, les gilets jaunes. C'est même quand c'est l'État qui est visé, le dernier rempart de la République, on le dit souvent. C'est mes collègues sur le terrain et on est souvent pris pour cible, alors que la cible directe, c'est pas la police, mais
c'est le politique, c'est le
exactement.
Ministre.
Mais vu que la police représente l'État. Et on se retrouve, nous, en première ligne, toujours.
Et parfois, c'est attisé par le discours de politique. Quand on dit la police tue, ça n'arrange pas les choses.
Oui, alors, notre organisation syndicale, on s'offusque...
Alliance
Police Nationale, oui, on s'offusque systématiquement. Et on a effectivement des politiques qui en ont fait des slogans politiques. Je pense à Jean-Luc Mélenchon, à Philippe Poutou, qui aujourd'hui ne font plus que ça, que de taper sur les forces de l'ordre. Systématiquement, on leur répond, mais le jour où on sera plus là, il se passera quoi? Voilà. Ça sera le chaos. Oui. Le jour où les forces de l'ordre répondront plus présentes.
Kevin Bossuet.
Oui, moi, je voudrais apporter mon soutien à la police, dire merci à la police. Heureusement qu'ils sont là. Quand on aime la République, quand on aime la France, on ne peut que soutenir la police. Et quand j'entends dans le champ politique certains hommes politiques nous parler de violences policières, la vérité, c'est qu'en France, le problème, ce ne sont pas les violences policières, ce sont les violences contre les policiers qui ont été multipliées par deux en 20 ans. Enfin, c'est catastrophique. Et aujourd'hui, encore il y a quelques années, on s'en prenait à la police, on s'en prenait à l'uniforme. Aujourd'hui, on s'en prend aux policiers en tant que tels, où on met en avant des noms, on met en avant des noms d'enfants, des adresses, des plaques d'immatriculation. Il y a une perte d'autorité dans notre pays qui est insupportable. Et quand j'entends certains collègues, souvent de gauche, nous raconter que la police, finalement, je parle des profs, nous raconter que la police, c'est mal, c'est toujours dans la répression, mais c'est faux. Moi, j'estime qu'avec monsieur, on fait exactement le même métier, celui de servir la République, faire en sorte que dans notre société ça aille bien. Et moi qui enseigne dans une banlieue, je dis toujours à mes élèves, regardez la chance que vous avez d'avoir des policiers qui vous protègent. Arrêtez d'être sensible à ce discours anti-police, parce que la police, c'est quelque chose de fondamental. C'est ce qui permet le vivre ensemble plus que n'importe quoi et n'importe qui.
Kaouter Ben Mohamed.
On peut qu'être d'accord avec toi, mon cher Kevin, sauf que ce qui dessert la police, parce que ça existe, je suis désolée monsieur, ça existe dans toutes les professions et dans toutes les communautés, c'est la poignée de brebis galeuses, j'appellerais ça comme ça, qui ne sont pas des policiers exemplaires. Vous voyez ce que je veux dire ? On a tous vu des images où, et moi j'ai assisté déjà à des scènes qui étaient surnaturelles, où je voyais des policiers faire du zèle dans des quartiers populaires du centre-ville de Marseille, où je suis très mobilisée par rapport au logement indigne, donc je suis toute la journée dans ces rues-là, avec des étudiants, en fait. C'est des mecs qui étaient là, même pas à fumer un joint, à fumer une cigarette, à boire une canette de coca après le travail, parce qu'ils travaillent dans des librairies. J'étais là et j'ai dû intervenir parce que il y avait un agent de police sur les scènes qui faisait du zèle et qui est parti au contact, limite pour les provoquer. Donc, la grande majorité des policiers n'agit pas comme ça, mais il y a une partie des policiers qui agit comme ça et qui dessert.
Qui est très minoritaire.
Oui, excuse-moi, c'est pareil quand on parle des jeunes de banlieue. Moi, je vais prendre qu'une seule cité, à Herbel, où j'habitais dans beaucoup d'endroits à Marseille, dans beaucoup de cités. Il y en a une où il y a 9000 habitants. Mon cher Kevin, 9000 habitants, c'est une ville, d'accord ? Il y avait 10 millions qui trafiquaient, on incriminait les 9000 habitants. Je suis désolée, dans les cités, il n'y a pas la totalité ou la majorité des cités qui sont des délinquants, qui sont ce que tu appelles toi des islamistes, des terroristes potentiels, des vendeurs de shit, et vous-même, vous en attestez. Si c'était le cas, si on avait la majorité des jeunes, des banlieues, des cités, ou d'ailleurs des quartiers populaires, de manière générale, qui étaient des fouteurs de troubles, la France serait à feu et à sang. C'est toujours des minorités, peu importe. Qui ça ?
Mais les policiers.
Mais je n'ai pas dit le contraire. Je te dis que ce qui dessert la police, c'est la poignée de personnes.
C'est pas que ça desserve la police, Kaouter, ne sois pas encore excessif dans tes propos. Mais je parle sous le couvert de mon collègue. Tous les ans, tu sais, l'IGPN qu'on a tellement vilipendé pendant longtemps, tous les ans, tu as en moyenne entre 1300 et 1500 collègues qui passent au trapèze, comme on dit chez nous, avec sanctions administratives, voire sanctions judiciaires. Donc les policiers ne sont pas absous de tout, hein. Je veux dire, ils ont des comptes à rendre. Et effectivement, s'il y a des dérives chez certains policiers, 99,9%, c'est-à-dire les millions d'interventions que font les policiers par an, ne posent aucun problème.
C'est une profession qui est très contrôlée, en fait.
Bien sûr, et je voudrais saluer, parce qu'on l'a oublié de le faire, mon cher Olivier, c'est les gendarmes aussi, les policiers municipaux, qui sont dans la même maison. Donc,
c'est un peu facile de dire ouais, les jeunes ont été contrôlés. Quand... Est-ce que tu sais la genèse, pourquoi ils ont été contrôlés ce jour-là, par exemple? Non, mais il faut voir le fond de l'affaire.
J'étais là, il n'y avait rien. Ah,
mais, voilà. Mais tu n'étais pas là avant.
J'étais là. Ah. On préparait l'hommage du 5 novembre, si tu veux tout savoir. Donc, j'ai 3 heures, mais j'étais. C'est un flic qui fait du zèle avec tout le monde. Voilà. Il y en a qui sont comme
d'accord. Excuse-moi,
quand tu dis. Non, mais je vais lui répondre.
Il faisait du zèle, c'est formidable.
Oui, mais bien sûr. Excuse-moi, quand tu te lèves pour les auditeurs,
je t'excuse pas.
Tu parles à Mino comme ça et que tu le tutoies, tu fais du zèle. Tu le vouvoies, le Mino.
Et qu'est-ce qu'il lui a pas dit, le Mino avant?
Il a rien dit. Je te dis, on était là, on préparait l'hommage immédiat. Donc arrêtez de.
Elle m'a bousculé, je tiens à le signaler.
Si tu veux, je te mets un vrai coup de tête, comme ça tu vas voir c'est quoi la violence de bord. Non, mais.
Parle sous le.
Non, mais.
Il y a deux policiers.
Et alors, la quantité, ça fait quoi?
Johan, il y a aussi quelque chose, moi j'entends souvent les policiers le dire, on a un problème avec la justice qui est trop lente, qui ne suit pas suffisamment. Et parfois on se sent finalement un peu abandonné.
Mais c'est exactement notre discours en fait, et le discours qu'on tient depuis plusieurs années. Ce qui est très problématique dans le travail de mes collègues aujourd'hui, c'est la non-réponse pénale ou la réponse pénale qui est trop faible. Quand aujourd'hui vous interpellez 30 fois la même personne pour les mêmes faits, que cette personne-là est interpellée, conduit au commissariat, déféré devant la justice, et que le lendemain, il est de nouveau dans la rue, au contact de mes collègues, il y a un sentiment d'épuisement. On le dit souvent, mais ils ont l'impression de... Mes collègues sur le terrain, ils ont l'impression de vider l'océan à la petite cuillère. Et alors moi, je tire
pourquoi,
pas sur...
Pourquoi ces gens sont remis en liberté? C'est pour quel type de fait, en fait?
Ah mais pour tout, il faut regarder la loi de Taubira qu'on a dénoncée assez souvent a fait que quand vous prenez 2 ans de prison ferme aujourd'hui, 2 ans de prison ferme, déjà il faut y aller en France pour prendre 2 ans de prison ferme. Si vous prenez moins de 2 ans de prison ferme, votre peine est aménagée et vous n'allez pas en prison. On a un manque de place en prison, une certitude en France. On a également une idéologie d'une partie de la justice. Je mets pas tous les magistrats dans le même panier, mais qui viennent nous expliquer que la prison n'est pas la solution. Mais la solution, c'est quoi à partir du moment, regardez les faits dans le 10e arrondissement. Si l'individu avait été maintenu en prison, on n'aurait pas eu ce drame-là.
Il ne pouvait pas être maintenu parce qu'il avait fait son temps de détention provisoire.
C'est le problème aussi de la France, la détention provisoire. Il faut savoir que 3/4 des prisonniers. Trois quarts des prisonniers sont en détention provisoire. Oui. C'est-à-dire, quand tu passes ce délai d'un an comme ce gars-là, il aurait pu prendre 10 ans. Hein. Tu vas me dire, dans 10 ans, peut-être il aurait fait quand même.
Au moins, on le protège, pas en 10 ans.
Moi, là où je suis pas d'accord, mon cher Johan, ça m'a interpellé lorsque vous avez fait la manifestation devant l'Assemblée nationale, où Van de Mellerik a dit, le problème de la police, c'est la justice. Je trouve que ça a été un petit peu dur. Comme on dit, il faut laver notre linge sale en famille. Mais le dire comme ça ouvertement, je trouve, c'est jeter l'opprobre sur la justice, parce que la justice sanctionne plus qu'on l'imagine. Malgré ce que vous pouvez penser, et tu as raison sur le fait qu'il y a des multirécidivistes et qu'ils ne sont jamais vraiment en prison, quoi. Et c'est vrai que c'est un problème, mais je trouve que c'est dommage de jeter l'opprobre sous la.
Je vais juste te répondre, Bruno.
Oui, vas-y.
Si cette phrase, on en parle encore aujourd'hui, c'est qu'elle a eu le but escompté. Si on n'avait pas été aussi fort dans les propos, les états généraux qui ont été faits derrière avec le Beauvau de la sécurité sont liés aussi à cette manifestation-là. Tu l'as fait pendant des années avec nous. Chaque manifestation,
j'entends bien.
Chaque fois que les policiers descendent dans la rue, ce qui est relativement rare, mais on descend, nous on casse rien. J'entends donc on dérange personne. Le lendemain, une actualité en chasse une autre et on passe à autre chose. Cette phrase, elle était là pour marquer les esprits. Évidemment que c'est un raccourci et que la problématique de la police, c'est pas toute l'institution justice, mais il faut regarder les choses en face. On a une vraie problématique avec la réponse pénale en France.
Tout à fait.
Moi, je voudrais dire quelque chose. C'est un peu le débat qu'on va avoir tout à l'heure. On fait une partie. Moi, je dirais que le problème de la police ou le problème de la justice, c'est le système en fait entier judiciaire, son fonctionnement et ses défaillances qui sont de plus en plus énormes. Si on parle de règlement de compte à Marseille, parce que ça défile la chronique régulièrement, malheureusement.
C'est le match à suivre.
Oui, mais c'est pas des règlements de compte, c'est des assassinats, pardon. Et le problème, il y a un collectif de familles qui va peut-être arriver à vous joindre, qui voudrait vous parler là. C'est les parents, les mamans de ces enfants qui s'entretuent. qui ont monté un collectif qui demande audience auprès de Monsieur Dupont de Moretti depuis 2 ou 3 ans qu'il existe. Parce que le problème, c'est que ces tueurs, ce sont des tueurs. Ils ne sont pas appréhendés, ou quand ils sont appréhendés, ils ne sont pas condamnés à des... Je ne sais pas, quand tu tues quelqu'un, tu prends 2 ans de prison, tu ressors, tu recommences. Et comme vous le dites, vous ne faites même pas les 2 ans de prison. Peut-être que si ces jeunes qui sont devenus au-delà de trafiquants de stupéfiants, pour certains, des assassins, des meurtriers, de leurs collègues de quartier, de fois même dans la même famille, des cousins qui s'entretuent, etc., etc. Peut-être que s'il y avait des peines de 25 ans minimum incompressibles... On regarderait
le
à deux.
C'est tellement important que les.
On regarde. Non, entre ceux
moi,
qui meurent.
Moi, j'en ai rencontré, moi, des mecs.
Oui, mais moi aussi, j'avoue.
Ils me disent, et moi, je peux te dire que j'ai des gars qui m'ont dit rencontré. Je préfère vivre 10 ans ouais. avec, en roulant un Porsche et avoir des belles gonzesses et aller dans les hôtels à Monaco que me faire chier
ouais,
toute la vie
tu
à toucher le SMIC.
Mais
c'est la vérité.
Oui, mais quand t'as 20 ans, tu te prends 30 ans de prison et qu'ils sont incompressibles et tu sortes à 50, 55 ans, excuse-moi.
Tu les prendras pas.
Oui, mais.
Les mecs, ils vont pas dans ta réflexion.
Non, mais excuse-moi. Une fois, deux fois, trois fois. Là, mais aujourd'hui, il y a zéro réponse. On est d'accord, ils sont même pas arrêtés, ces mecs. Voire, ils sont.
Il y en a qui sont sanctionnés. Il faut pas non plus dire que les mecs.
Quand on voit le film Bac Nord.
Excuse-moi.
Il est intéressant le film Bac Nord que j'ai revu là cette
j'ai
semaine.
Pas vu, donc je...
Excellent film Bac Nord. Au-delà de ce que ça raconte, il est très bien réalisé, très bien joué.
Elle n'a pas besoin de regarder le film, mais la réalité.
Non, mais ce qu'on voit dans Bac Nord, c'est que finalement on a des gars du terrain qui font ce qu'ils peuvent, hein, et qui sont un peu désespérés parce qu'ils peuvent pas rentrer dans les cités parce que les cités sont contrôlées par les dealers et on leur dit leur hiérarchie dit n'y va pas parce que ça va foutre le bins, il faut pas pas de vague. Bon, finalement on leur demande quand même d'y aller et quand ils y vont, ils sont pas suivis derrière parce qu'on on leur reproche de faire ci ou ça. Il faut voir le film, mais est-ce que c'est pas ça aussi le problème? C'est que parfois sur le terrain, on n'est pas soutenu par la hiérarchie. On va pas, en tout cas, pas jusqu'au bout.
C'est la même chose. On va dire que la hiérarchie, elle répond aux politiques aujourd'hui. Mm-hmm. Et les ordres qui sont donnés par le corps préfectoral et ça redescend du politique. Quand on je sais pas, on prend une manifestation qui dégénère à République et que les instructions données sont de ne pas interpeller pour pas recréer de l'événement sur l'événement, ces instructions-là, elles émanent pas de la hiérarchie policière.
Sauf que les Français devant leur télé ils comprennent pas, ils disent mais pourquoi on n'arrive pas à arrêter les 30 types qui cassent tout, ils sont pas non plus très nombreux et on vous le reproche, on vous dit bah finalement les flics n'interviennent pas, ils devraient intervenir.
Oui, mais nous les policiers effectivement, on a un corps hiérarchisé, ça veut dire que moi mes collègues sur le terrain si il y a pas un ordre et encore plus en maintien de l'ordre, vous faites pas ce que vous voulez, mais on fonctionne avec une colonne hiérarchique sur tous les événements.
Et là, on vous dit de ne pas intervenir parce que ça risque d'être pire, c'est ça, en fait?
Et très souvent, oui. Très
discernement,
souvent. Les ordres hiérarchiques, et je vais parler de la ville que je connais le mieux, à Paris. À Paris, tout est scruté par le monde politique.
C'est vrai aussi.
La préfecture de police, c'est une police dans la police. Mais les instructions qui sont données, elles émanent pas de la hiérarchie
policière
directement.
Olivier, il y a une certaine mesure dans l'intervention de la part des policiers, et c'est vrai que le politique, le policier est en face entre le public, nous, les citoyens, et le politique à haut niveau. Et le policier est au milieu. Et c'est vrai que les situations sont difficilement parfois appréciables de la part des autorités qui essaient de mitiger. Parce que moi, j'ai discuté avec des copains, des braves, des compagnies d'intervention, des phares, etc., qui me disent, mais on nous donne le top, en 10 minutes, c'est réglé le problème.
Non, mais.
Pourquoi on donne pas le top,
parce qu'on risque la mavure. Balikosekine, 86. Tu vois, des trucs comme ça.
Alors,
ça
là, vous parlez du maintien. Non, mais juste un truc, s'il te plaît, c'est important. Au-delà du maintien de l'ordre, moi, j'ai des immeubles dont je m'occupe à Marseille qui sont sous arrêtés de péril préfectoraux et municipaux. Donc, ça veut dire que la population doit être évacuée. Personne ne fait rien parce qu'il y a des points de deal importants en dessous et tout le monde a peur. C'est une décision politique, c'est une décision du préfet, c'est une décision du ministre. De pas vouloir intervenir, et y compris quand il s'agit de maintien de la force publique. On tape sur les flics, mais je suis désolé, ils peuvent rien faire s'ils n'ont pas les ordres.
Justement, on va en parler dans un instant puisque Marseille sera au cœur du GG7 et match. Le temps de remercier notre ami Johan d'être venu à la table des grandes gueules. Bon courage pour ce week-end à tous les policiers qui sont mobilisés pour que le réveillon se passe bien. Pendant que certains font la fête, d'autres travaillent. C'est le cas des policiers. Merci d'être venu dans les grandes gueules. Dans un instant, donc Marseille. Est-ce que Marseille est devenue une zone de non-droit avec ses règlements de compte? Il y a eu quand même 33 morts à Marseille dans des règlements de compte en 2022. Plus de 60 homicides et tentatives d'homicide. Marseille, une zone de non-droit, oui ou non? À vous de vous prononcer au 32-16. À tout de suite sur RMC et RMC Story.
RMC, 9h30, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
C'est le dernier match de l'année 2022, le GG7 et match qui va désormais opposer deux équipes, Kaouter Ben Mohamed et Bruno Pomard dans la même équipe, c'est assez rare pour le souligner,
ouais.
Face à Kevin. De quoi s'agit-il ? 33 morts à Marseille en 2022, c'est une véritable hécatombe ces règlements de compte, on n'arrive pas à y mettre fin. Ils sont principalement liés à des affaires de trafic de stupéfiants et c'est donc l'objet de notre match aujourd'hui.
RMC
GG 7 et match.
La ville de Marseille est-elle devenue une zone de non-droit ? Oui, dit Kevin Bossuet. Non, pour l'ancien policier du raid Bruno Pomard et la Marseillaise des GG, Kaouter Ben Mohamed. Kaouter, puisque c'est toi qui es le local. Hein.
Exactement, et je suis très fier de l'être d'ailleurs.
Eh bien, c'est toi qui commence ce match. Allez, c'est parti.
Marseille n'est pas, n'a jamais été et ne sera jamais une zone de non-droit. Marseille est l'une des plus belles villes de France. Elle pourrait être la capitale de la Méditerranée si elle n'avait pas, malheureusement pour elle depuis des décennies, les élus, enfin, certaines de ces élus qui font partie de la classe la plus médiocre et non courageuse et non compétente de toute la galaxie. Ça c'est dit. C'est-à-dire que
ça, c'est fait.
Parce que le problème de la délinquance, c'est le problème de ce que vous appelez des règlements de compte, à savoir d'assassinat. Certains de nos enfants, je dis nos enfants parce que voilà, c'est notre ville, sont devenus des assassins, y compris pour certaines familles. Je le regrette pour elles, des propres cousins qui s'entretuent pour des narcotrafiquants, parce que certains territoires de la République que vous définissez comme des zones de non-droit sont abandonnés depuis des décennies et il n'y a absolument rien. Il y a du logement qui est complètement indécent.
Donc,
et
c'est une zone de non-droit.
Et je rappelle que le logement et le logement social en particulier n'est pas de la responsabilité des habitants, mais l'entretien du bailleur, donc du propriétaire, qu'il soit. Et il n'y a plus rien en fait, il n'y a plus d'éducation. Et toi, tu le sais, c'est pour ça que tu vas dans ces.
Les 60 pour ça, secondes pour
si
terminer.
Un ancien flic, et que moi, on est d'accord, c'est que vraiment, nous qui connaissons le terrain, qui connaissons les jeunes, qui connaissons ces quartiers, c'est pas la faute des habitants.
Kevin Bossuet.
Oui, bon, bah déjà, je n'ai jamais mis les pieds à Marseille. Je n'ai pas envie d'y mettre les pieds, puisque j'ai des amis qui sont allés plein de fois. Et très franchement, il paraît que c'est horrible, c'est sale, c'est affreux, il y a une insécurité partout. Enfin, ce sont les. On dit, donc de là à dire que c'est la ville la plus belle de l'univers, ou je ne sais pas trop quoi. Bon, bref, je ne m'avancerai pas sur le terrain. Alors après, sur la question des zones de non-droit. Enfin, c'est la question est la suivante. Qu'est-ce que c'est qu'une zone de non-droit ? Alors, peut-être que c'est pas complètement, certains quartiers ne sont pas complètement des zones de non-droit, parce que malgré ce qu'on raconte, la police peut quand même entrer. Mais la question est-ce que la police peut faire correctement son travail ? La réponse est évidemment non. On voit bien qu'il y a une montée de la violence avec un phénomène des règlements de compte qui est endémique, avec ce phénomène de jambisation, par exemple, où vous avez des trafiquants de drogue qui tirent dans les jambes des autres trafiquants pour faire des blessés à armes lourdes, avec des habitants qui ne sont pas forcément, qui ne se sentent pas chez eux. Parce que quand vous rentrez dans une cité et que vous avez des dealers qui vous attendent et qui vous demandent qui vous allez voir, pourquoi vous êtes là, est-ce que vous n'êtes pas de la police, est-ce qu'on est encore dans une zone de droit ? La vérité, c'est que sur certains territoires, on est dans une zone au sein desquelles, finalement, ce sont les trafiquants, ce sont les dealers qui organisent l'ensemble de l'économie, qui organisent l'ensemble de la vie sociale, et les policiers ont beaucoup, beaucoup de mal. D'ailleurs, le travail premier du policier, c'est quoi ? C'est d'essayer d'aller voir les habitants pour voir s'il est possible d'aller faire le guet dans leur appartement, pour voir s'il est possible qu'on leur donne des informations. On en est là aujourd'hui. Alors, on va partir de Marseille, mais quand je vois, par exemple, à Saint-Ouen, dans la cité Charles Schmitt, où vous avez les habitants qui négocie directement avec les dealers pour être tranquille après 22 heures, on peut quand même très largement se poser des questions. Quand vous prenez en région parisienne à Sevran ou en 2007, vous avez une balle. Vous avez une balle qui traverse. Vous avez une balle qui traverse une cour de récréation. Est-ce qu'on est encore dans une zone de droit ? La vérité, c'est que non. Le problème de la drogue, c'est que il y a 20 000 personnes qui vivent directement de la drogue. Il y a 200 000 personnes en France qui en vivent directement. C'est 3 ou 4 milliards d'économie par an, enfin c'est ce que gagnent les gens. Un point de deal, c'est environ 10 000 euros par mois. Donc forcément, c'est la loi du marché sur la loi de la République. Et en effet, on peut se poser la question. On est dans des zones peut-être pas de non-droit, mais dans des zones de semi-droit.
Les zones que vous qualifiez de non-droit, excusez-moi, c'est 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires minimum. C'est pas 10 000.
Donc tu vois, par jour.
Zone non endroit. Moi, cher Kevin, il faut faire la différence. C'est zone non endroit où personne ne peut plus aller.
Non, mais parce que ce concept
zone de notre droit, peut-être.
Oui, voilà. Ouais, tu sais très bien qu'il y a des cités qui sont contrôlées par les dealers.
Mais tout le monde en convient. Mais
il faut montrer pas de blanche pour entrer.
À Marseille, comme ailleurs, le jour où la police décide d'y aller, elle y va. Je veux dire, coûte que coûte.
Avec quel résultat?
Évidemment, on n'y va pas, ce que tu disais, en allant faire du lilotage. Moi, le premier, j'irai pas me promener à deux dans une cité, si j'y vais sous d'autres formes. Mais si la police décide d'y aller, elle y va. Elle a fait des perquisitions gigantesques dans tout un tas de quartiers. Elle est capable d'être présente. Le seul souci, c'est dans la durée. Que fait-on?
Mais c'est un combat sans fin, surtout, on a l'impression. Gérald Darmanin a fait de la lutte contre les points de deal.
Il en a fait tomber un paquet.
D'accord, mais combien de points de deal se reconstituent à côté? J'ai l'impression que c'est un combat sans fin. Ces règlements de compte à Marseille, on en parle depuis des années, il y en a toujours plus.
Arrêtez avec règlements de compte, c'est des assassinats.
Des assassinats ou des fusillades. Alors peut-être que cyniquement, ça arrange tout le monde. Peut-être qu'on se dit, comme c'est des voyous entre eux qui s'entretuent, on va pas non plus quand même trop se mobiliser.
C'est surtout les dégâts collatéraux qui gênent le plus. Mais le trafic de stupéfiants, etc.
C'est pas que ça gêne, c'est inacceptable.
Existe depuis la French Connection, depuis Gaston Defer. C'est pas d'aujourd'hui, Marseille.
Non, mais c'est
d'autres
pas
grandes villes.
Non, c'est je veux dire, pas cesser de dire ça.
Mais la police peut quand même faire sa mission, c'est ce que je veux dire.
Non, aujourd'hui,
le monsieur qui était là
l'a dit avant.
C'est l'efficacité.
Moi, j'en atteste à Marseille. Moi, je suis née dans des bidonvilles, j'habite dans la moitié des cités, j'habite toujours dans un centre-ville populaire. Je suis désolée. La police n'a pas les moyens de faire son travail correctement.
Elle le fait quand même.
Alors, tu entends bien ma phrase entière? Oui. J'ai correctement.
C'est pas la police qui est en cause.
C'est pas la police qui est en cause, en fait. C'est que le politique, ceux qui nous gouvernent, y compris M. Darmanin, malgré ses différentes déclarations, ne donnent pas les moyens. Il n'y a pas que M. Darmanin, je vais terminer ma phrase. Ne donnent pas les moyens aux autorités compétentes de faire leur travail de prévention et de répression. Et quand il y a prévention, il n'y a pas que la prévention policière. Il y a un problème d'éducation. Les éducateurs qui bossent dans ces quartiers-là, et je salue Karim, mon collègue, qui lui est encore resté sur le terrain de la DAP, qui fait un travail formidable au quotidien, ils n'ont plus les moyens aujourd'hui de travailler avec ce type de jeunes. Ils n'ont aucun moyen humain, aucun moyen financier.
Ils sont sous emprise de réseau, c'est une chose. Mais
oui,
parlons de l'institution,
on en parle toi et moi souvent par rapport à des actions sur Marseille, et tu le fais toi. Moi, je regrette et je regretterai toujours la police de proximité.
Ouais, enfin, la police de proximité dans les cités, la pauvre.
C'est pas la police de proximité qui permettait de démanteler les points de deal.
C'est pas son rôle. Son rôle, c'est de faire
un problème.
Son rôle, c'est de faire un
zone de non-droit. Avec les gens qui font la loi. Donc la police de proximité, on s'en claque.
Non, parce que quand il y avait la police de proximité, et je salue René Giancarli qui était à la tête de cette police de proximité. Oui, parce que j'ai travaillé avec des personnes formidables, y compris avec des flics formidables. Non, arrêtez vos conneries là. On a fait un travail exceptionnel dans les cités. Ils rentraient dans les cités, ils n'étaient pas caillassés, ils parlaient avec les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont devenus flics, excuse-moi, et ils empêchaient certains jeunes d'aller vers les narcotrafiquants, etc. C'est certain. Vous parlez des choses que vous ne connaissez pas, c'est merveilleux quand même.
Hervé est avec nous au 32-16. Bonjour Hervé.
Bonjour tout le monde.
C'est dur pour moi.
Vous vouliez intervenir parce que vous avez fait de la prison, c'est ce que vous avez dit au standard.
Voilà, ouais, j'ai fait 7 ans de détention. Je suis sorti en 2019.
Au Beaumet ?
Non, j'ai pas fait les Beaumet. J'ai fait Luynes et après je suis parti à Tarascon, comme centre d'extension.
D'accord.
Voilà. Bon, après, moi je voulais revenir un peu sur ce qui a été dit. Je pense pas que Marseille soit une zone de l'endroit, c'est pas un souci. Ce qui se passe actuellement, c'est un problème générationnel. Moi j'ai côtoyé un peu ces jeunes en prison. Je vous donne deux exemples. Mais ils s'en foutent totalement. De rentrer en prison, de sortir, de prendre 10 ans.
La prison ne fait pas peur.
Non.
Alors, continuent leur trafic en prison, d'ailleurs.
Deux exemples.
Allez-y.
Deux exemples. Une fois, je suis à la douche le matin. Il y a deux jeunes qui prennent la douche avec moi. Donc, c'est la douche 4-5. Bon, enfin, bref, ça discute. Et ils étaient actuellement en passage devant la cour d'assises pour un double meurtre ou un règlement de compte. Ça parlait entre eux. Les discussions, c'était moi, si je prends 10-12 ans, je suis content. Je m'en sors bien. Voilà les jeunes.
Ah oui.
Ils rentrent en prison, ils prennent des. C'est ce qui se passe actuellement, les moyennes, c'est entre 10 et 15 ans.
Mais pourtant, c'est beaucoup, 10 ou 15 ans quand même.
Ouais, non, mais attendez, laissez-moi parler. Ces jeunes-là, ils ont une vingtaine d'années, ils sont jeunes. Quand vous rentrez, par exemple, prenez 10 ans, vous avez 21 mois automatiquement de remise de peine, quasiment 2 ans, vous descendez à 8 ans. C'est automatique.
Ouais, c'est ça.
8 ans, vous retenez bien un peu de RPS. Ils sont jeunes, à mi-peine, on leur donne une conditionnelle parce qu'ils sont jeunes, il faut les réinsérer. Ouais. Ils font 4-5 ans, ils ressortent. Ils ont tué du monde. Voilà ce qui se passe actuellement.
Okay.
Okay. Autre chose, j'étais avec un jeune de 26 ans à la Castellane, avec moi en cellule. Je parlais un peu avec lui, je lui dis ça va et tout, putain, arrêtez conneries et tout. Parce que moi, je parlais avec lui, je l'entendais au téléphone, hein, avec ses collègues et tout, bon, enfin, bref. Et je lui dis, tu n'as pas marre, cette vie et tout. Et il me répond texto, et pour vous dire la mentalité qu'ils ont, moi, si j'arrive jusqu'à 30, 32 ans, que je meurs, je vis jusqu'à 30, 32 ans, je serai content.
C'est ce que disait tout à l'heure Bruno Pomard. En fait, ils se disent, on vit 10 ans, mais on vit bien avec l'argent, la drogue, etc., à fond. C'est intéressant ce qu'il dit, c'est-à-dire que c'est compliqué après de trouver la bonne réponse.
Non, Hervé, ce que vous disiez, le changement qu'il va y avoir, c'est la réduction de peine maintenant automatique, c'est fini.
Dans
la nouvelle législation.
Non, ça, il ne peut pas le mettre, ça va faire un bordel complet.
T'es obligé de mettre une carotte.
Ça a été dit, hein.
Il y a eux, ça a été dit, mais ça n'a pas été fait. Et ce ne sera pas applicable. Parce qu'il y a eux et les autres délinquants. Les autres délinquants, ils ne méritent pas de ne pas avoir de réduction de peine. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc ils peuvent pas la... Alors, à moins qu'ils fassent comme à l'époque, quand il y avait les remises de peine du 14 juillet du président, pour certains cas, oui, pour certains cas, non. Voilà.
Bah en fait, Hervé, les remises de peine devraient être liées à un comportement, elles ne devraient pas être automatiques.
Il y en a pour le comportement. Il y en a pour le comportement.
Mais c'est celle-là qu'il faut garder. C'est celle-là qu'il faut garder, parce qu'il faut quand même avoir... Il faut quand même avoir un espoir en prison et ça permet aussi d'acheter un peu la paix sociale.
Non, mais les remises de peine automatiques selon les délits.
Et c'est Hervé, vous avez fait 7 ans, vous ?
Ouais, moi, sur ma vie, j'ai fait 10 ans, tout.
10 ans, et vous avez arrêté ? Enfin, vous avez arrêté, vous êtes...
Je suis rangé.
Quel âge vous avez ?
53 ans.
Vous aviez fait quoi ?
Moi, c'est pour escroquerie.
D'accord. Et vous êtes rangé, c'est-à-dire que la prison vous a quand même fait réfléchir ?
Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Moi, j'ai autre chose à faire. J'ai un enfant. J'ai fait de l'argent facile. Mais je vous explique pour revenir à ce que disait Kaota tout à l'heure.
Mais vous dites qu'il y a une nouvelle génération qui, un, la prison, ça fait pas peur. Deux, ils se disent, de toute façon, on va vivre 10 ans. Donc, de toute manière,
ils s'en foutent. Ouais. Les jeunes, ils se vantent. Je vous explique. Ils vont chercher quelqu'un, comme on dit ici. Ils se vantent après, ils sont en boîte. Ils se vantent, ouais, nous, si nous avons fait ça. Ils s'en foutent totalement. Se faire serrer, ils s'en foutent. Allez, et pour revenir à ce que disait Kaota tout à l'heure. Il y a de plus en plus d'affaires résolues sur Marseille. Il n'y en a jamais eu autant d'affaires de meurtre, de règlement de compte résolus. Il n'y en a jamais eu autant.
Donc il y a quand même un travail des policiers qui est fait.
Oui, mais il y a un travail, ils sont débordés. Ce qui se passe actuellement là, ce qui s'est passé cette année, c'était prévisible. En vérité, ce qui se passe cette année, ce sont les gens qui sortent de prison, parce qu'il y a beaucoup de sorties de prison actuellement, et ils veulent reconquérir les territoires qui ont été pris par les jeunes. Voilà ce qui se passe. Donc ça va durer un an ou deux ans, avoir beaucoup de meurtres.
Parce que là, 33 morts, c'est un record sur l'année.
Oui, mais c'est l'année dernière, c'est pas cette année.
Chacun retrouve sa place et puis hop, ça se tasse.
Non, mais ils veulent essayer, les jeunes, ils ont les langues longues, ils veulent pas se laisser faire, et les autres qui sortent, et c'est comme ça. Et c'est même de la prison, ils continuent leur trafic. Et puis pour revenir à ce que disait Kaota tout à l'heure, je l'aime bien Kaota, mais à un moment donné, il faut remettre un peu les choses à leur place. Quand tu parlais du collectif des parents, des mères de famille, de ces jeunes qui se font tuer, je te comprends, ça, je suis d'accord avec toi. Mais reconnais-le, la majorité. Dans ces quartiers-là, vivent du trafic de drogue, le savent parfaitement.
Et les parents aussi.
Et ne disent rien. Moi, j'ai entendu.
C'est la loi du silence.
Les parents qui ramenaient du site aux gamins en prison pour faire le trafic en prison.
Ne dites pas la majorité.
Ça existe.
Moi, j'ai vu des mamans.
Arrête de cacher la vérité.
Non, on n'a pas dit que
c'est le témoignage Hervé.
Le monsieur doit être plus précis. La totalité de la cité ne vit pas.
Il n'a jamais dit ça. Il a dit qu'il a vu une maman qui ramenait du shit à son nom en prison. Il l'a vu.
Il a dit tout le quartier est vide.
Mais c'est marrant parce que quand vous êtes face à une réalité, vous dites non, c'est pas comme ça.
On n'a pas dit le contraire. On a vu la mère de Fada de Cattenay se défendre aussi. Il y a des mamans qui défendent envers et contre tous leurs enfants, même quand ils font des conneries. Il n'y a pas de problème. Sauf qu'on te dit, lui en tant que policier, moi en tant qu'habitante de ces quartiers et éducatrice spécialisée, que ce n'est pas la majorité des parents.
Le mot de la fin, Hervé.
Qui vivent sans précaution les trafics de leurs enfants.
C'était la majorité. Je dis juste que j'ai vu plusieurs fois des gens de ces familles-là ramener du chichon pour que leurs fils, leurs enfants fassent le trafic en prison parce que c'est plus rémunérateur que dehors. Ils sont protégés.
Voilà, faire les mules ou etc.
C'est la vérité.
C'est la vérité, Hervé.
Ça existe.
Merci Hervé pour ce témoignage. Merci. Et puis on vous souhaite un bon réveillon.
Toujours à l'OM.
Allez. C'était bien hier.
C'était bien.
C'est 6 buts. Merci Hervé.
Au plaisir Hervé.
Merci. Dans un instant, d'autres témoignages au 32-16 et cette question. On va peut-être faire un premier point sur la consultation. Marseille est-elle devenue une zone de non-droit ? Que dites-vous ? Bon, on va attendre un peu. Allez, à tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite du GG7 et match avec Kevin face à Kauter et Bruno. La question est la suivante. Marseille est-elle devenue une zone de non-droit? 33 morts à Marseille en 2022, c'est un record des morts dans des règlements de compte sur fond de trafic de stupéfiants. Alors on va regarder ce que vous nous dites. Un point sur le match. Est-ce que vous êtes plutôt dans la team Kevin ou la team Kauter, Bruno? Suspense. C'est 86%
oui. Parce que les gens parlent
Marseille est une zone de non-droit. 86% Kauter. L'image de ta ville quand même en prend un coup. Non mais c'est
parce qu'on a une partie de nos auditeurs qui sont réels.
86% de ceux qui nous regardent.
Le New York Times et des revues internationales nous font. Voilà, c'est une ville merveilleuse.
New York Times, c'est, alors là pour le coup c'est hors sol. Hein, New York
non non mais attends, excuse-moi. On a les gens qui viennent à Marseille. D'abord, souvent ils y restent, y compris les Parisiens, ce qui nous embête beaucoup d'ailleurs que vous restiez, que vous n'avez pas qu'en vacances.
Heureusement qu'on est là pour faire vivre le commerce.
Mais tu rigoles ou quoi? Je veux dire que tu te promènes. Vous êtes venu, vous avez bien vu. On est entré à 5h du matin à pied. Didier Giraud, il était fracas.
Didier, il avait la peur de sa vie, même.
N'importe quoi.
Et pourtant, Didier, c'est un gros gaillard.
C'est une ville, je suis désolée. Sors des règlements de compte où vous dites oui. Alors, dans ces cas-là, je peux dire que les routes sont devenues. Donc, dans ces cas-là, les routes sont.
Deuxième degré.
Je te taquine. J'ai été plein de fois à Marseille.
Les routes sont devenues alors des zones. Exactement.
Ça y est, il va habiter Marseille.
Non.
Il ne faut quand même pas exagérer.
Il est évident que.
C'est comme si on disait. Marseille, ça s'est toujours super bien passé.
C'est comme si on disait que les routes étaient devenues des zones de non-droit parce que l'alcool était à volonté et qu'il y avait des gens qui avaient des comportements meurtriers. Je suis désolée, il n'y a pas de territoire de non-droit.
On va écouter maintenant Laetitia. Parce
exactement,
qu'il nous reste
bonjour
plus de
Laetitia.
Temps. Laetitia est membre du collectif des familles endeuillées, des familles victimes de ces règlements de compte, et notamment assassinat. Le petit Ryan mort d'une balle perdue, c'était en août 2021. Laetitia, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'avoir accepté de prendre la parole. Vous êtes donc la tante de Ryan. Expliquez-nous ce qui lui est arrivé.
Donc, Ryan, le 18 août 2021, était chez ma mère, au Marronnier, dans le 14e à Marseille. Il est parti avec un ami à lui dormir chez un autre ami.
Il a quel âge ?
Il avait 14 ans.
14 ans.
Il est sorti donc pour aller manger un bouillie pour dormir après chez son meilleur ami qui était dans un quartier... à côté d'une autre à la SNCF. Ouais. Et en sortant du quartier, une moto est arrivée avec deux personnes dessus, armées d'une Kalachnikov, et ils l'ont rafalé, lui, son ami, et un papa avec un petit qui était à côté.
Donc c'était les autres qui étaient visés.
Oui.
Et pourquoi?
Oui, mais parce qu'ils l'ont pris pour un guetteur.
Ah oui.
Guerre de territoire. Ils l'ont pris pour un guetteur.
Et ils tirent comme ça, ils tuent, quoi, en fait.
Ah oui, ils viennent pas pour
faire peur.
Ils sont venus pour tuer ce genre-là.
Et son copain à côté n'avait rien à voir sur les trafics ou quoi?
La mère Ryan?
Oui.
Par la suite, on a su qu'il était impliqué dans des trucs. Puis après, je peux pas en dire plus parce qu'il y a quand même une enquête qui est en cours. C'est
Et on a retrouvé les tireurs?
Non, ils ont pas été retrouvés, non.
Ah bon?
Ah non. Pourtant, l'affaire a été médiatisée, hein. De par son jeune âge.
Et à votre avis, pourquoi? Parce qu'il y a une loi du silence, personne ne parle, ou parce que finalement on s'est dit, bon ben voilà, c'est un règlement de compte, un énième et.
Alors c'est très compliqué dans les quartiers, c'est très compliqué, il y a quand même une omerta qui se passe quand il y a. Bon, moi j'aime pas ce terme de règlement de compte parce que pour moi c'est forcément lié au stup et en ce qui concerne mon neveu, c'était pas le cas. Ouais. Pour moi c'est un assassinat, pur et simple. Après, dans les quartiers, il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, les gens ont peur. Moi, j'y ai vécu 25 ans. Je suis partie que cette année. Parce que, bon, par rapport à ce qui nous est arrivé, on ne pouvait plus rester là-bas.
Ouais.
Après, voilà, faut comprendre que les familles ont peur. Quand vous arrivez dans un quartier où il y a des checkpoints, où on vous demande où vous allez, on vous met une torche à l'intérieur pour savoir qui vous êtes, quel bâtiment, enfin, c'est quand même compliqué. Moi, j'y vivais, donc ça ne me choquait plus, mais ça peut choquer d'autres personnes. Je vous écoutais tout à l'heure parler, je sais plus qui disait, moi, j'irai pas dans un quartier comme ça. Enfin, oui, je peux l'entendre. Après, faut savoir que ceux qui veulent que ça change et que ça bouge à l'intérieur des quartiers, souvent sont prêts à partir. On les menace, eux ou leurs enfants. Donc c'est vraiment très compliqué. Donc imaginez-vous un assassinat. Les gens ne viendront pas de d'eux-mêmes à la police, même s'ils entendent ou s'ils savent des choses, pour dire ah, je pense que c'est lui ou j'ai entendu.
Parce que dans votre histoire, on imagine que ceux qui ont tiré, ils doivent être dans le coin. Enfin, c'est-à-dire, c'est voilà, et toujours. Donc, c'est pas forcément des enquêtes si difficiles que ça à mener, Bruno Pommard.
Oh, si, c'est compliqué. C'est plus compliqué que ça.
C'est compliqué parce que les gens ne parlent pas, ils sont pas en fuite, ils sont là, ils sont à côté.
Après, je pense que c'est compliqué dans tous les sens parce que voilà, c'est compliqué parce que pour avoir des infos dites des habitants, ben on n'en aura pas. Après, je pense aussi que vu que la police judiciaire, enfin, moi c'est mon ressenti, hein, et on a pu le constater au sein du collectif des familles de victimes par rapport à certaines affaires qui ont été même clôturées pour certaines, il y a un manque de moyens évident, on va pas se leurrer. J'ai déjà contacté moi des personnes de la CRIM, on a vu le procureur. Il y a un manque quand même de moyens. Et après, il y a beaucoup d'affaires. En sachant que maintenant, c'est même plus que limité à Marseille. Les affaires dans les villes environnantes sont dirigées aussi sur Marseille maintenant. Donc c'est très compliqué aussi pour la police. Je veux dire, sur le moment quand ça arrive, il y a peut-être des choses, je sais pas, qui ne sont peut-être pas faites, ou qui ne le sont faites que trop tard.
Les
vidéosurveillances, les cils, les là, les caméras.
Ouais,
je veux dire, il y a quand même des moyens. Retrouver ceux qui...
C'est pour ça que je m'interroge quand même.
Laetitia, j'entends ce que vous dites, c'est dramatique ce qui est arrivé à votre neveu, évidemment, mais moi, il y a quand même une chose à la base. Il y a des gosses qui tombent dans le stup, qui déscolarisés, qui tombent dans le stup, etc. Il y a plein de gosses dans ces quartiers aussi qui ne dérivent pas, qui ne se font pas abattre, évidemment. Je ne parle pas de votre neveu, parce que lui, c'est vraisemblablement un malentendu, mais son copain était quand même impliqué dans des affaires de stup.
Oui, mais on ne va pas sourire. Il faut quand même qu'on reprenne
à la base la problématique, c'est quand même la famille et l'éducation dans tout ça. Parce que c'est bien gentil de dire, comme le dit Kauter, c'est la faute des élus, c'est la faute du ministère, c'est la faute de tout le monde.
Réponse de Laetitia, il nous reste un peu de temps.
Pour moi, c'est pas que cette problématique. Effectivement, pour certaines personnes, il faut prendre le problème à la racine. Oui, il y a des enfants qui sont déscolarisés, il y a des enfants par manque de moyens, dans la pauvreté. Il y a beaucoup de choses qui font qu'ils peuvent tomber dans le réseau, mais après, il n'y a pas que ça. Personnellement, j'ai 41 ans. Moi, je fus une époque, parce que les marronniers, c'est une copropriété, hein, c'est pas chez même. Je veux dire, moi, je payais 900 euros de loyer. Quand j'y ai vécu, quand j'y ai habité, j'avais que 14 ans. Ouais. À l'époque, les marronniers, il y avait des structures sociales, il y avait des aides aux devoirs. Ils sortaient les minots du quartier pour les personnes, les familles qui n'avaient pas les moyens de faire partir leurs gosses en vacances ou dans des activités extrascolaires. Maintenant, lors d'aujourd'hui, je suis désolée, je parle des marronniers parce que c'est le quartier où j'ai vécu. Hein. Il n'y a plus rien. Alors, j'ai même essayé de m'y intéresser parce que pour les 1 an de mon neveu, j'ai voulu que les minots du quartier sortent un peu parce que depuis que Ryan est mort, ils osent plus sortir les petits. Ils ont peur. Ouais. Donc on l'a fait là-bas et à un moment je me suis intéressée, je me suis dit, est-ce qu'il y a un centre social à l'intérieur ? Par qui c'est régi ? Ouais. Et on m'a expliqué que c'était le centre social de Saint-Gabriel. J'ai dit, mais est-ce que vous trouvez ça normal qu'en X années, je n'ai jamais vu personne de Saint-Gabriel à l'intérieur de ce quartier ? Il y a des locaux vides pourtant. On pourrait faire des choses à l'intérieur.
Bien sûr.
Mais quand vous voyez que même les centres médicaux partent des quartiers, excusez-moi, alors il me semble que ça, c'est le gouvernement, c'est l'État, c'est les élus. C'est pas les familles, ça, qui donnent des subventions à des associations.
Vrai,
alors je dis
raison.
Pas que c'est que ça, attention, mais je dis quand même que plus longtemps, quand on occupait nos minots à faire autre chose,
bien sûr.
Ça rentre en compte.
Merci Laetitia d'avoir témoigné.
Merci à vous.
Et on vous souhaite un très bon réveillon. Kevin, un mot sur le témoignage de Laetitia.
Oui, non, c'est la réalité de beaucoup d'habitants, malheureusement, avec le sentiment finalement qu'on est dans une forme d'impuissance publique où ces gens sont livrés à eux-mêmes et que l'État n'existe plus. Et c'est ce qui produit également une crise démocratique. Les gens se disent pourquoi aller voter, puisque de toute manière, si je vais voter ou si je ne vais pas voter, c'est exactement la même chose. Et c'est ça qui est dramatique.
Merci à tous pour vos témoignages au 32-16. Résultat final, je crois que malheureusement il n'y a pas trop de suspense qu'à Outer. Il va falloir que tu l'encaisses. Marseille est-elle devenue une zone de non-droit ?
J'invite les gens
toujours
à
86% et Kauter vous invite à Marseille. Kauter, c'est terminé parce que il me reste 5 secondes pour vous souhaiter un très bon réveillon à tous, à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous écoutent. Vous avez été d'ailleurs encore plus nombreux en 2022 qu'en 2021 et on espère que vous serez encore plus nombreux en 2023. En tout cas, on se donne rendez-vous lundi avec qui ? Tiens, Kauter Ben Mohamed, Didier Giraud, l'éleveur de bovins et Charles Consigny, l'avocat. D'ici là, passez un très bon réveillon, profitez-en bien et soyez bien sûr prudents sur la route.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.